Je suis développeur software, aussi musicien, mais puisque je suis développeur, j'ai vraiment passé le temps pour être musicien. Il y a toujours bien quelque chose de super intéressant à faire. Et puisque je travaille maintenant en tant que développeur dans la musique, j'ai joué un truc, je me dis, oh, ça pourrait être chouette de faire ça. Et du coup, là, je joue pas de la musique. Mais je... voilà. Donc, juste pour illustrer un petit peu, ça fait depuis que je suis gosse que je fais la musique et la programmation. J'ai vendu mon premier logiciel quand j'avais 14 ans. Mais j'ai toujours pensé que je devais choisir. Soit j'étais informaticien, soit j'étais musicien. Et puis, il y a 6 ans plus ou moins, j'ai découvert l'instrument que j'ai là, qui est très encombrant à prendre en fait. Donc, je ne peux pas prendre, mais j'ai une petite version ici, qui s'appelle Lagenharp. J'ai fait connaissance des gens qui créent cet instrument-là. J'ai complètement adoré. Pourquoi ? Parce que je suis guitariste à la base et je cherchais un moyen pour jouer des sons électroniques avec ma guitare. Il y a quelqu'un qui joue la guitare ici ? Non ? Oui ? Vous avez déjà essayé des synthés MIDI pour guitare ?
Non, non, jamais.
Il ne faut pas. Ça marche pas. Oui, ça marche, mais on ne sait pas jouer de la guitare. On joue des cordes d'une façon très précise pour que le machin fonctionne, quoi, pour que ça détecte suffisamment bien et pour que ça crée des informations digitales qui peuvent générer des sons. Donc du coup, je me sentais jamais à l'aise. Je ne pouvais pas jouer ma guitare comme je jouais avec ma guitare, avec les vrais sons de micro de guitare. Par contre, cet instrument-là, la Lagenharp, c'est un petit peu comme une guitare, hein, ici aussi, de l'instrument dont je vais parler, hein, sur lequel je travaille. Hein. Ça, comme des frettes, c'est des rangées de notes qui sont allongées sur un manche. Mais c'est des capteurs digitaux. Et donc, ça peut directement utiliser cette information-là. Et donc, je m'en suis acheté un, les premiers au monde. C'était super cher, c'est toujours très cher. Mais puisque j'étais tellement passionné, je me suis mis en contact avec les gens qui le faisaient. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux en tant que développeur, puisqu'ils cherchaient quelqu'un. Donc, pendant plusieurs années que j'ai fait ça. Et puis, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré Roger Lynn, c'est celui qui a inventé la boîte à rythme, Thriller, Big Beat, Marvin Gaye, tout ce qu'on connaît des grands classiques des années 80 qui ont été faits avec des boîtes à rythme, qui sonnaient plus ou moins comme des batteries, parce que lui il a fait les premières boîtes à rythme digitales, une boîte à rythme digitale. Et donc j'ai l'opportunité de travailler avec lui et d'avoir cette collaboration aussi, qui est ce qu'on fait maintenant, moi, Roger et moi, c'est l'instrument. Donc je l'ai rencontré à ce moment-là, ce qui m'a permis, pendant quelques années maintenant, de complètement voyager dans ce monde-ci, qui est le monde de l'expressivité. Comment est-ce que je traduis ce que je ressens en moi, mais avec des sons électroniques. Ça peut être des sons électroniques qui ressemblent à des sons acoustiques. Hein. Bon, alors, une petite histoire de la musique électronique. Quelqu'un connaît ça?
Oui.
Oui, c'est un theremin. Un theremin. On dit que c'est le premier instrument électronique qui existait, inventé par Léon Theremin, qui l'a découvert par hasard, parce qu'il faisait des recherches dans le domaine de l'électromagnétisme. Pour les soviets, pour la Russie, quoi. Et il a trouvé qu'en fait, il pouvait faire un instrument musical qui a deux antennes, une antenne qui gère la fréquence d'un autre joue, et une autre antenne qui c'est l'amplitude, donc si ça joue plus fort ou moins fort. Alors, c'est une petite démo. Parce que moi, je joue pas. Il a des oreilles, il faut, donc c'est pas possible.
C'est Randy George, c'est un joueur de theremin récent qui joue magnifiquement bien. Mais c'est un instrument qu'on doit s'approprier comme un violon. Moi, je ressens le même genre de choses. Ça sort de cette rythme, quoi. Mais le moindre mouvement qu'il fait, puisque ça travaille dans le champ de l'électromagnétisme, même s'il respire, ça va avoir une influence sur le son. Ce qui rend cet instrument très, très, très difficile à jouer. Probablement moins plus difficile quand même. Parce que si tu es stressé, ça va s'entendre directement, tu vas respirer différemment, la position de ton corps, s'il n'est pas complètement relax, ça va avoir une influence. C'est assez impressionnant à quel point ça détecte les mouvements. Et donc, qu'est-ce qui rend la musique si émotionnelle? Parce qu'en général, on entend le theremin dans les vieux films de science-fiction. Ici, c'est joué comme un instrument. Et pourquoi est-ce que c'est tellement émotif? C'est parce qu'il est directement relié au son. C'est les ondes qui génèrent avec son corps, génèrent du son en fait. Il n'y a rien entre. C'est une relation directe, une relation analogue. Les mouvements qu'il fait vont directement avoir une traduction dans le son. Ce qui, quand on pense à la musique électronique de nos jours, c'est pas ce qu'on voit. J'adore ce qui se passe dans la musique électronique, mais c'est très distant. On lance un truc, on pilote une boucle, on tourne un knob, pas du tout la même chose. Du coup, pour moi, il manque quelque chose. Donc après le theremin, il y a eu deux grands inventeurs de synthé. Il y a Don Buchla, qui est ici avec son... C'est une version récente de son système 200E, où il y a, en fait, on voit les mains qui ont... Il y a une surface de toucher métallique qui, de façon similaire qu'au theremin, ça mesure la résistance, et donc, quand on bouge les doigts dessus, ça va avoir une influence directe sur l'électricité qui voyage, en fait, dans l'instrument, dans le synthé. Et en même temps, il y a eu Moog, hein, Dr. Bob Moog, qui a inventé le synthé modulaire, Moog, le premier synthé commercialisé, probablement des synthés les plus populaires au monde, hein, juste après, le modulaire, le mode D, où, de nouveau, on travaille sur les sons synthés, mais avec un clavier piano. Alors, l'avantage que ça a, c'est que ça fait beaucoup moins peur. Hein. On voit avec la clavier piano et on peut déjà s'imaginer, ok, c'est un Do, quand on est devant un theremin, il est où le Do, quoi? C'est pas. Le Do d'aujourd'hui sera probablement un autre Do demain parce que l'humidité est différente. Donc, avec le clavier piano, ça permettait à beaucoup plus de gens à jouer des mélodies connues, mais en même temps, ça limite l'interface. C'est un clavier piano. L'avantage, par contre, c'était toujours piloté avec des control voltages, donc de l'électricité qui voyage par le clavier et qui est directement relié au synthé. Donc on a quand même encore cette connexion et on a les boutons qui nous permettent d'avoir une relation directe ou un rhythm control où on peut aussi un petit peu influencer. Après, Moog a sorti le Model D, qui a ça fait le grand succès, le mini Moog. Synthé mythique, où c'était portable en fait. Et puis il y a eu Dave Smith qui a sorti avec Sequential Systems, Circuits, le Prophet 600, donc le Prophet 600, qui est le premier synthé avec une interface MIDI. Qui sait, connaît MIDI? Quelqu'un utilise MIDI? Oui? Tout le monde qui fait du son fait du MIDI en général, de nos jours, quand c'est électronique. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, c'est tout simplement une série de messages digitales qui sont envoyés pour dire voici tes notes, voici la position de ce bouton-là. Ça se résume à ça, il y a beaucoup plus de couches derrière, hein, mais ça se résume à ça. Ce qui permettait aux instruments de communiquer ensemble. Donc on pouvait être sur le Prophet 600 ici, jouer du son, connecter un câble, le connecter à un autre synthé et jouer un son d'un autre synthé. Il y avait une connexion standard entre les deux. Heureusement que ça a existé, puisque ça a permis les gens de collaborer ensemble. Malheureusement, il y a le DX7 qui est sorti, qui était le synthé qui a probablement rendu le plus hein, c'est des centaines et centaines de millions d'exemplaires. Il marchait bien parce qu'il y avait beaucoup de sons qui ressemblaient à des sons acoustiques. Allez, pour l'époque, maintenant on les entend, on dit pouf. Hein. Mais pour l'époque, c'était. Mais c'était tellement complexe à programmer que personne ne le faisait. C'était pas un synthé vraiment analogique, c'était un FM synthesis, donc frequency modulation. En fait, on devait travailler avec des numéros pour le programmer, c'était impossible, quoi. Personne ne le faisait. Donc on commençait à réfléchir dans des patchs et tout simplement jouer les sons qu'on avait. Ce qui a évolué dans les workstations où on a une panoplie de sons qui évolue dans tous les sens, on appuie sur un bouton et ça joue pendant 3 minutes, quoi. C'est incroyable. Même si on regarde, ça fait quelque chose. C'est incroyable. Et récemment, je dirais dans les derniers 10 ans, ça a créé ce qu'on appelle les contrôleurs. Les pads, comme on voit ici en bas, qui permettent simplement d'allumer, d'éteindre des choses. C'est des interfaces industrielles, ça. Pour moi, c'est pas vraiment de l'instrument de musique. C'est on, off, il y en a plein là-bas, hein, des switches. C'est... Oui, on peut jouer. Il y a un truc qui joue, qui est toujours là, c'est le temps. Quand est-ce que je fais quelque chose? Mais ça, pour chaque instrument, c'est le cas. Le temps est toujours présent. Et pour le reste, on a perdu beaucoup de choses dans l'expressivité. Du coup, beaucoup d'attention a été mise sur la production, sur la création de boucles, la gestion des effets, la programmation des effets, l'automatisation des effets. Ce qui est très intéressant, parce qu'on a découvert beaucoup de procédés, des algorithmes, des procédés en synthé numérique qui n'existaient pas avant. Voilà pour la petite histoire. Alors, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a vu les ordinateurs. Et ce qui est important, c'est que les ordinateurs de nos jours sont super puissants et super bon marché. Quoi. On voit ce qu'on a dans la poche, ou pas ça, mais ce qu'on a ici, c'est plus puissant que mon ordi il y a quelques années, hein, ce qu'il y a sur mon poignet. Quoi. Et on achète ça pour quelques centaines d'euros, c'est ridicule en fait. Donc ça permet à tout le monde d'avoir accès à une création sonore hyper puissante et aussi à une puissance de calcul hyper puissante pour un prix démocratique. Et donc ça permet de créer des sons de synthé qui sont en fait des émulations incroyables de sons réels.
Je suis un très mauvais pianiste, mais je vais faire un petit démo quand même. Qu'on recherche quand on joue. On a les fréquences qui interagissent l'un sur l'autre, il y a de la résonance d'une note sur l'autre note. On a les cordes qui s'influencent entre eux. Et puis pour moi, ce qui est plus intéressant, entre l'instrument et les cordes qui jouent, je veux qu'ils se fusent beaucoup plus et du coup ça devient autre chose. C'est toujours un piano, mais un piano construit différemment en fait.
Et donc ça c'est possible grâce aux puissances de calcul, parce que là, si on peut aller, ce qui se passe, ça modélise un phénomène physique extrêmement complexe sur un ordinateur qu'on achète n'importe où. Et en même temps, ça me tourne une keynote, ça fait toute la gestion MIDI, une mise au Facebook, il y a 10 ans, faire une note comme ça, c'était impossible, parce que rien ne pouvait calculer assez rapidement pour faire 5 000. Donc, ça implique ça. Et donc, des systèmes de modélisation synthés, physical modeling en fait, hein, assez puissants. Donc là, c'est une petite vidéo de moi qui joue sur la glace, parce que je ne l'ai pas avec moi. Je joue. Il y a quelqu'un qui joue la violoncelle ici? Tu veux bien sortir? Je vais faire un peu désolé, peut-être. Donc c'est la modélisation d'une violoncelle jouée par un guitariste qui ne sait pas jouer la guitare. Donc, c'est... Mais il y a un petit peu, hein, on voit un petit peu ce qui se passe. Ah. Oula. Donc la grappe a des touches extrêmement sensibles, mais aussi un contrôleur sur le côté qui permet de faire toucher. Ça c'est de la musique électronique. Ça, j'ai entendu avec toutes les erreurs qui viennent. Ce qui est d'ailleurs assez un concept assez intéressant. Je ne connais aucun musicien électronique qui se pose la question s'il est bien accordé. S'il joue dans la bonne tonalité, en fait. Ici, il y avait des fautes, j'étais un petit peu à côté des notes. Mais du coup, ça vit. Du coup, quand tu maîtrises l'instrument, tu sais faire voyager tes émotions par l'instrument. Parce qu'il y a la possibilité de faire des erreurs, hein, le chaos permis. Et donc pour venir au contrôleur, au nouveau contrôleur, ce qui est mandala, vu la gamme, et l'instrument ici. C'est l'instrument. On peut le porter aussi, mais je ne suis vraiment pas encore habitué à ça, on peut le porter comme une guitare. Mais un autre, sur lequel moi j'ai travaillé, s'appelle le Motion Controller. Quelqu'un connaît ça? Ce petit truc? Vous l'avez? Hein? Ça coûte 90 dollars.
Ça coûte rien,
c'est incroyable. 90 dollars. La même fois, les mots montés, c'est ça que c'est.
Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite en veux. Voilà, ça c'est moi.
Incroyable!
C'est mieux que dans mes rêves, quoi. Toi, quand je voyais ça, je me disais, c'est pas possible. Alors, maintenant, ils sont en train de travailler dans la virtual reality, réalité virtuelle, où on a l'Oculus avec le motion devant, on voit ses mains. Je ne l'ai pas encore fait. J'attends que l'Oculus soit en version non-développeur. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Du coup, j'ai voulu faire un soft. Donc, c'est un soft qui permet de moduler du son avec sa main. C'est un petit peu comme un theremin en fait. Ce que vous voyez là, c'est ma main qui est modélisée avec chaque fois la direction dans laquelle je bouge et des sorties de données dans le bas. Et je peux faire avec les deux mains. Je peux tout programmer pour générer des messages MIDI. Le MIDI date des années 80, mais maintenant complètement digital, pour utiliser ça pour piloter un autre soft. Et ça, j'ai vite fait ça ce matin, j'espère que ça marchera.
I always thought you could buy some love and that we
Et ça, c'est une collection de vidéos qui dure 2-3 minutes, ou même pas une minute. C'est un compositeur qui gère le violon, il joue les notes avec une main, mais gère l'expressivité du violon avec sa main gauche.
C'est un big boxeur qui me joue de sa voix, encore là. Différents effets, mais aussi pilote des boucles dans ces boucles au moment où il touche la main sur la tête. Et du coup, même si on est dans le domaine des boucles et des effets, ça devient personnel. C'est ce mouvement à lui, au moment où il décide avec toutes les dimensions. C'est un artiste russe qui est en train de monter quelque chose de grave. Donc il fait sa performance dans les grands festivals, un Thomas Kennedy. Donc voilà. Donc, moi je vois ça un petit peu comme le Térémy de maintenant. Hein? Sauf que c'est trois dimensions, chaque main. C'est assez impressionnant, une fois qu'on commence à interagir avec ça, à quel point on se sent lié avec le son. Et c'est ça pour moi qui manque souvent dans la musique électronique. C'est quand on est musicien, il y a un boucle de feedback qui s'est créé qui fait que ça fonctionne. Donc, on joue. On entend et on reçoit la confirmation de ce qu'on entend correspond au mouvement qu'on a fait, qui fait que on s'inspire soi-même en fait. Et puis ça devient encore mieux s'il y a un public qui rentre dans cette boucle de feedback, où on voit réellement au temps réel, aux microsecondes même, comment un public interagit sur chaque petit mouvement, sur position sur scène. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la musique. La performance unique qui n'aura plus jamais. Un concert qui a eu une certaine date qui sera inégalable. Comme on a parfois des lives qu'on enregistre. Il y a très peu de lives de DJ qui se vendent, qui disent ça c'était le set de DJ à Ibiza en juin 2014. Il était terrible, quoi. Non, ce sera la production. On vend la production, voilà. Tandis que le nombre de lives de musiciens traditionnels qu'on recherche et qu'on retrouve, et ce concert-là, il y a eu un truc. Et ça, je crois qu'on doit essayer de le retrouver dans la musique électronique. Et il y a moyen, parce qu'on a maintenant ces nouveaux contrôleurs. Je ne sais pas où j'en suis pour le temps. Hein,
On parle de l'experiment et puis peut-être quelques questions après.
Ouais, parce que je peux pas continuer pendant 2 heures. Donc tu as l'instrument qui est ici. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que, de nouveau, il est un petit peu organisé comme une guitare ou... Sauf que je joue un piano. On fait les mêmes gammes qu'à la guitare, en fait. Donc, ça monte comme ça, les notes ici et ici. Standard, c'est un quart. Mais, particularité qu'il y a avec la grappe aussi, avec tous ces instruments au niveau, il y a c'est qu'on a plusieurs degrés de contrôle. Donc j'ai la pression. Je peux faire des slides. Puis, je crois qu'ici ça fait rien, mais dans un autre son, j'ai assez les octaves. Mais bon, je peux faire. Je peux bouger ici dessus. Je m'en fous quoi, c'est un instrument électronique même. Je peux aller à l'avant de la scène, je peux m'exprimer quoi, je peux bouger, vraiment interagir avec le monde réel. Donc ça, c'est une des particularités de l'instrument. En même temps, on voit ces gens. Là, ça, on a l'autre sens. J'ai la pression. J'ai le haut et le bas, puis le gauche et le droite. Avec chaque touche indépendamment. C'est ce qu'on attend d'un instrument. Une guitare, on veut tirer sur les cordes. Faire des bends, les détuner, taper dessus. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Donc ça, c'est un concept synthé qui est très répandu, hein, c'est l'enveloppe. C'est quoi une enveloppe? C'est comment est-ce que quelque chose évolue dans le temps, hein. Donc on a le niveau d'un signal, on a l'attaque, le déclin, puis le maintien de ce signal, et puis ça se relâche. C'est très standard. Typiquement, ce qu'on fait, c'est un programme ça. On dit, soit avec quatre faders ou des boutons, on dit ok, ça sera la vitesse d'attaque, maintien sera à ce niveau-là et ce sera toujours comme ça. Avec ces instruments-ci, donc l'instrument Klagenarp et un des autres, le Seaborg Continuum, on devient l'enveloppe, tout comme dans la musique traditionnelle, les instruments traditionnels. Nos doigts sont des enveloppes. Si je veux. Enfin, je peux avancer, mais... Je peux le maintenir plus longtemps, je le maintiens plus longtemps. Si je veux modifier le son, c'est moi qui le modifie. Au moment que je veux. Ce n'est pas l'enveloppe qui fera toujours. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à ce moment-là, il faut. Ok, non, j'ai plus besoin d'un. Ouais, j'ai besoin d'un. Comment on fait? On change de patch, il faut reprogrammer le bazar. Et du coup, le moment est passé. Donc, avec ces instruments-là, on devient l'enveloppe, on la joue. Donc là, c'est une autre démo. Je trouve qu'on entend bien que les sons sont vraiment tout doucement appuyés. Encore des questions ?
suis désolé qu'on a commencé plus tard.
Merci beaucoup. Et voilà.